Salut les marques et les smarts et bienvenue au supplément SmackDown, votre émission qui résume et analyse le show bleu de la WWE. Je suis Yarem et aujourd'hui, comme à l'habitude, je suis accompagné de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Bonjour tout le monde, bonjour Yarem. Allez, nous sommes inséparables.
Cet épisode avait encore lieu une fois de plus au Texas.
Mais oui.
À Dallas.
Ouais, ça... ouais.
Et nous étions le 30 août 2016. On commence une fois de plus avec un segment backstage impliquant Shane McMahon et son GM Daniel Bryan. Shane McMahon dit à Daniel Bryan qu'il doit des excuses aux Miz après ce qui s'est passé à Talking Smack. Shane McMahon est d'accord avec Daniel Bryan, mais on ne provoque pas ainsi les talents, les superstars. Donc, grosso modo, Daniel, tu es allé trop loin. Je suis d'accord avec toi. En off, je suis d'accord avec toi, mais tu es allé trop loin. Donc, Daniel Bryan, voilà, il est un peu penaud. Et surtout, il rétorque à Shane McMahon, et ce n'est pas anodin, qu'il trouve ça, qu'il est OK, d'accord, mais il trouve ça gonflé de la part d'un mec qui allait se frotter à Brock Lesnar, vous vous souvenez, à la fin de SummerSlam. Donc, ça se termine là-dessus, sur le visage de Shane McMahon qui se dit « Merde, putain, il a touché un point sensible ». On enchaîne avec le Miz qui se dirige sur le ring d'un pas décidé. Il n'attend même pas sa musique se soit enclenchée. Il a visiblement quelque chose à nous dire. Donc il s'en prend en public en lui disant « ne me huez pas, ne me sifflez pas ». Donc il est très autoritaire. Hein. Clairement, là, son objectif, c'est de récupérer de la hit. Parce que beaucoup de gens s'étaient rangés derrière les propos du Miz. Hein. Grosso modo, tout le monde a dit… Enfin, tout le monde. Beaucoup de personnalités ou beaucoup de suiveurs… On trouvait que les mots du Miz étaient justes. Il annonce qu'il va redonner du lustre au titre intercontinental, qui a perdu de son prestige à cause de ceux qui ont abandonné. Donc, petite dédicace à Daniel Bryan. Il se défend, il défend sa cause. Il dit, mais qui appelle-t-on là pour jouer les porte-parole? Qu'il faut aller sur les plateaux télé, apparaître dans les talk-shows, faire des pubs complètement nazes, aller à Hollywood pour tourner des films pour les studios WWE. Quand il faut interpréter un poulet frit, là, vous vous souvenez tous de la pub avec Dolph Ziggler, justement, qui a été diffusée de façon un peu étrange, je crois, la semaine dernière, ou à SummerSlam, je ne sais même plus, on s'en moque. Justement, Dolph Ziggler qui l'interrompt, la musique de Dolph Ziggler retentit ou pas, je ne sais plus, mais Dolph Ziggler arrive, il dit, mais tu sais pourquoi les gens te sifflent, mon bon vieux Miz? C'est parce que ce que tu veux, en réalité, c'est juste être célèbre. Donc là, tu as la chance de le prouver régulièrement que tu n'es pas un coward, que tu n'as pas peur, que tu es quand même un catcheur, quoi, en ce modo. Mais tu ne le fais pas. En gros, tu te défiles tout le temps. Donc, Dolph Ziggler, qui était chaud, chaud bouillant, ça n'arrête pas. Depuis quelques semaines,
il était
totalement chaud, dit, tu veux le prouver ça aux fans, à Daniel Bryan, à ta femme, que voilà, tu n'es pas un lâche, alors fais-le maintenant, sans arbitre, sans title shot, donc right now, donc Dolph Ziggler est chaud bouillant, grosso modo, il veut, il propose au Miz de s'en mettre sur la tronche, se battre pour de vrai, quoi. Pas d'arbitre, pas title shot, on y va, quoi, on reste sur le ring quand même, parce qu'il faut que les gens nous voient se mettre sur la tronche, pas de furiture. Mais le Miz, pour la faire court, n'ira jamais au combat, mimant plusieurs fois le fait qu'il allait revenir, mais bon, vous connaissez ces séquences habituelles de heel qui font mine d'aller sur le ring et qui partent. Il l'a pas dit, mais l'idée c'est toujours ce sera selon mes termes, quoi, grosso modo
c'est ça.
Mon bon Giscal, qu'as-tu pensé de cette gestion finalement de cet épisode entre Daniel Bryan et le Miz?
Pour le moment je suis un poil déçu. Je suis un poil déçu de l'abandon, on va dire, en quelque sorte, de cette petite histoire entre le Miz et Daniel Bryan, puisque manifestement ils le mettent en stand-by pour le moment. Alors j'espère que c'est un stand-by justement et qu'ils y reviendront plus tard, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très très sympa à faire autour des deux. Mais bon, c'est vrai que Daniel Bryan s'est excusé. Ils ont décidé de changer d'angle en le remplaçant en quelque sorte par Dolph Ziggler dans cette histoire. Donc de ce côté-là, je suis un peu déçu. Par contre, après, ça ouvre du coup une nouvelle rivalité que j'attendais moi personnellement depuis franchement des années. Je dois pouvoir retrouver des articles sur les cahiers du catch où j'écrivais qu'un de ces quatre, Le Miz et Dolph Ziggler auraient une feud, si possible, à WrestleMania, parce que je suis sûr qu'ils en sont capables, mais une grosse, grosse feud entre les deux, parce qu'il faut savoir quand même que ces deux-là sont copains comme cochons. Hein. C'est vraiment, ils sont ultra potes. Ils viennent tous les deux, si je dis pas de conneries, de Cleveland, Ohio.
D'accord. Alors je précise juste, donc du coup, tu es le Paco Rabanne des Cahiers du Catch, puisque tu as vu cette rivalité arriver depuis des années.
Non, ouais, mais à l'époque, c'est parce qu'il y avait des embryons de feud et je les voyais emporter ça loin et ça s'est jamais vraiment fait. Ils ont peut-être jamais vraiment eu la confiance du management pour se lancer dans un truc, un contrat un peu endiablé. Mais il se trouve que là, peut-être que la séparation des brands aujourd'hui fait que ce genre de rivalité est possible en mid-card. Et moi, j'y crois beaucoup parce qu'ils sont tous les deux excellents au micro. Ils ont énormément d'alchimie ensemble. Ils ont fait beaucoup beaucoup de matchs tous les deux. Ils se connaissent par cœur. Ils viennent de la même ville. Je pense que et puis ils sont très potes. Donc je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose d'énorme. Donc je suis assez content de les voir se lancer dans cette rivalité.
Alors juste, je te coupe, je suis assez étonné quand tu me dis que finalement ils n'ont jamais eu de rivalité l'un
Si,
et l'autre.
ils ont déjà eu
Oui,
des
parce que
petites rivalités, mais
leurs chemins se sont croisés à plusieurs reprises,
plusieurs reprises.
notamment avec ce titre intercontinental qui n'est pas inconnu des deux, quoi.
Non, mais sans jamais vraiment concrétiser, on va dire,
D'accord.
par une grosse histoire, hormis des séries de matchs un peu. Ils avaient fait pas mal de séries, je me rappelle, de matchs à accessoires pendant une période où
Ah.
chaque semaine il y avait des matchs à thème où ils s'affrontaient, des choses comme ça, des matchs
C'est
justement
pas la
de rôle
rivalité
et tout.
qu'on attendait, quoi. Là, on l'a enfin.
Bah là, je pense qu'on peut avoir quelque chose de pas mal. Bon, après, petit bémol peut-être sur le fait que bon, bah, Dolph Ziggler, ça y est, s'écarte un peu de lui-même, de sa quête pour le titre. Bon, en même temps,
On l'a. Oui,
on
il a
pourra
été
nous dire qu'il
écarté
a
à deux
été écarté
reprises.
de facto par ses deux
Ouais.
défaites, mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas à ce chemin-là pour Dolph Ziggler. On s'attendait peut-être à une lente descente aux enfers, sombrer un petit peu dans la parano, dans la psycho, parce
La
que voilà,
drogue.
dans la drogue exactement, et le retrouver dans un caniveau. Non, mais bon, du coup, à la limite, pourquoi pas de heel turn tout de suite. Mais voilà, moi je pense que ça va être excellent. Les deux sont très bons. Et puis Dolph Ziggler surfe absolument sur une vague en ce moment de feu là pendant ses promos.
Ah, il est bouillant.
Il est habité là dans tous ses segments. Le Miz en face, il n'y a pas de problème. Donc ça risque de nous donner quand même quelque chose de très très sympa. Et a priori, je crois pas que ça a été annoncé là, mais je pense qu'on devrait avoir un match à Backlash
Oh oui, c'est rendez-vous à Backlash, hein. Ça a été plus ou moins. Je sais pas si c'était officialisé au moment où on enregistre, mais effectivement, on va droit vers un affrontement à Backlash. Et effectivement, une rivalité directe entre Bryan et Miz a un petit peu mise de côté. Juste pour information, justement, alors, comme quoi on apprend pas mal de choses en dehors aussi du cercle direct du network. Mais justement, Daniel Bryan avait évoqué ce point-là en expliquant que c'est tellement tendu entre les deux.
Oui.
Mais vraiment, c'est physique, je pense, toi, ça arrive
Ouais.
épidermique, que je pense que les bookers, les scénaristes, veulent éviter
Ouais,
de trop les mettre
pas trop les confronter, quoi.
de trop les confronter, notamment parce que maintenant SmackDown c'est en direct et on peut pas trop se permettre lors du show principal que ça parte en vrille, quoi.
Mais c'est vrai que si un de ces quatre, ils arrivent à mettre leur mouchoir dessus, entre guillemets, et rester pro, ils peuvent faire quelque chose de dingue, parce qu'ils ont quand même, le Miz et Daniel Bryan ont une histoire qui remonte jusqu'au début de Daniel Bryan à la WWE.
C'est
Hein.
ce genre de rivalité qu'on adore,
Ah
historique, où les mecs en plus ont deux visions assez différentes,
ouais. Bah,
représentent deux
c'est
visions, enfin,
complètement différent. Ouais, donc.
et c'est devenu tellement épidermique, donc comme tu dis, ça arrive un peu à mettre d'eau dans leur vin, en tout cas un petit mouchoir sur vraiment sur ce
Sur leur
qui
désaccord
leur
profond,
désaccord profond, effectivement, on peut arriver à des
tout
choses.
en s'en voilà, tout en s'en servant à la télé,
Ouais.
ça,
Je pense que c'est le genre de choses qui serait plus difficile quand même pour Daniel Bryan.
peut-être.
Qui, contrairement au Miz, a peut-être plus de difficultés à faire la part des choses entre ce qu'il pense vraiment et ce qu'il doit
C'est ça.
retranscrire et le transformer pour que ça devienne bah, du divertissement. Ça reste du divertissement et pas
Exactement.
la foire d'empoigne,
Non, c'est pas le but.
c'est pas une télé-réalité, quoi.
Non.
On enchaîne avec le tournoi. Le tournoi tag team qui avait lieu donc qui a commencé la semaine dernière parce que comme vous le savez donc un tournoi tag team a été mis en route pour construire une finale donner lieu à une finale qui aura lieu à Backlash pour couronner les premiers champions par équipe de SmackDown. Il faut bien tout donner dans le titre du championnat, parce que c'est important. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les Hype Bros affrontent les Vaudevillains, nos amis les Vaudevillains. Donc on a une petite promo des Vaudevillains. J'avais mis dans mes notes qu'il fallait que je retrouve le contenu pour le retranscrire. Je ne l'ai pas fait, mais je me souviens que j'avais aimé cette petite vidéo. Bon, c'est bien d'avoir toujours des petits packages vidéo. Voilà, quoi, il faut faire ses preuves. Toujours est-il que Zack Ryder et Aiden English débutent le match. Donc Zack Ryder enchaîne dropkick, forearm. Il enchaîne ensuite avec un saut entre les cordes qui touche sa cible, mais il est cueilli par un sacré brise-nuque. On se retrouve sur le ring. On a une petite démonstration de force des vaudevillains, parce que c'est les monsieur muscles, hein, les gentilshommes. Donc on bande ses muscles, on fait des pompes. Voilà, on est un peu provocateur. Le tag arrive enfin sur. Sur Riley, oh, toujours du
Mojo
Mojo Rawley,
Rawley.
et non pas, à ne pas confondre avec Alex Riley,
Non.
même si c'est quasiment le même niveau, je ne sais pas, qui lui enchaîne bah, les grosses clotheslines, son Stinger Splash, donc il est venu, hein, c'est un gros lourdeau, il fait pas dans la dentelle,
Non.
tag avec Zack Ryder, la Bruce qui boot avec le fameux Woo-Woo-Woo qui marche toujours super bien. On place le finisher move, le fameux Hype Rider, visiblement c'est son nom.
Manifeste.
Et victoire des Hype Bro au détriment des Vaudevillains. Les Hype Bro donc qui sont qualifiés pour les demi-finales et qui affronteront pardon, les gagnants du prochain match.
C'est ça.
Donc un match très court hein, par rapport à ce qu'on nous avait proposé la semaine dernière,
Ah
notamment
ouais.
avec le fameux Breezango versus Uso, si je dis pas ou American Alpha. Tu veux?
Breezango, c'était contre American Alpha.
C'est
C'était un
ça,
super match.
un super match.
Et les Usos, c'était contre The Ascension.
Voilà, c'était un match un peu plus court, mais un
Ouais,
match quand
beaucoup
même
plus
assez
court
solide.
avec un autre objectif, mais eux aussi The Ascension.
Là, c'était assez expéditif. Malgré tout, on a présenté comme deux équipes assez soudées,
Oui.
avec chacun ayant pu montrer un peu ce qu'il avait à faire, mais clairement là, c'était pas un squash match, mais c'était un quick match, quoi.
Oui, si, je pense qu'on peut dire que c'était un squash match quand même. Mais
D'accord,
bon,
bon bah.
enfin, en tout cas, c'était une victoire très, très dominante, hein, on va dire, des Hype Bros. Et clairement, on sent qu'on est rentré dans la deuxième partie du tableau la plus faible quand même du tournoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est le
Oui.
sentiment que j'en ai, hein, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on avait eu deux bons matchs avec au moins trois bonnes équipes sur quatre. Enfin, vraiment trois très bonnes équipes sur quatre. Là, c'est un peu plus léger, hein, donc les Hype Bros et les Vaudevillains. Et bon, on sait que le prochain match, ce sera Heath Slater et Rhino contre une équipe mystère, enfin qui a été annoncée depuis, mais on en reparlera. Donc on est sur la deuxième partie du tableau un peu plus molle, qui me fait toujours, du coup, qui me fait toujours penser que le tournoi est quand même encore, enfin la division tag team est encore un petit peu légère. À SmackDown en termes de nombre, parce que moi personnellement j'ai pas trop accroché à ce match. Bon, c'était très efficace pour le temps imparti, hein, s'ils avaient 3 minutes à tout péter, donc voilà, les Hype Bros étaient bookés pour montrer voilà ce qu'ils savent faire. Ils sont costauds, ils sont rigolos, ils sont dynamiques, tout ça. Moi personnellement ça marche pas trop de mon côté. Les slips fluo, Mojo Rawley qui passe son temps à gueuler là,
Ah,
et
les
puis
slips fluo, ça marche. Pardon, les slips fluo, ça marchait quand même mieux sur. Ah mince, va que j'oublie son nom, le pauvre.
Je sais pas de qui tu parles.
Et si, qui a été viré par la WWE, qui était avec Cody Rhodes. You're welcome.
Ah oui, Damien Sandow, oui.
Damien
Oui, c'est
Sandow.
vrai que les slips rose fluo ne vont qu'à lui. Oui. Mais bon, voilà, moi j'ai trouvé ça un peu léger et ça fait équipe un peu très comédie, très fofolle, mais rien de très très. Enfin, ça fera jamais des champions. Moi, je trouve que ça fait rien de très sérieux. Donc du coup, là, on se retrouve avec un match un peu lambda. Et quand on sait du coup qui ils vont affronter en demi-finale, on se dit que a priori ils sont là juste pour être là, parce que ce serait bizarre d'arrêter l'angle Slater au bord des demi-finales. Donc voilà, moi j'ai pas trouvé ça très intéressant et j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait en sorte de m'intéresser. Donc j'ai été un peu déçu par ce match et cette équipe.
Oui, bah écoute, moi je te rejoins complètement. Moi je suis surtout. Autant pour les Highbrows, ils sont à leur place, comme tu dis. Autant. C'est les vaudevillains, ça m'embête un petit peu. Parce que moi j'ai beaucoup de sympathie pour ces deux gars. J'aime beaucoup leur
Oui, c'est vrai.
gimmick. Qui est une gimmick pas forcément très
C'est vrai.
évidente. Hein, ils ont un catch assez correct. Mais voilà, ils retombent un peu bas. Hein. On se souvient quand même qu'ils avaient.
Ils tombent très bas. Ouais.
C'était qualifié pour la finale, ils avaient affronté pour le titre, donc ils avaient affronté les New Day. Bon, il y avait des coups du sort, etc. Mais toujours est-il
C'est
que
vrai que quand on pense qu'ils étaient dans un
ils ont été
title shot.
champions. Ouais, ils ont été champions NXT. Bon, après on pourra toujours nous rétorquer que beaucoup d'équipes ont été championnes NXT, mais voilà, ils étaient quand même. Bon, voilà. J'espère qu'ils trouveront leur place. Ça m'embêterait qu'ils se noient complètement dans
C'est
cette division tag team
manifestement.
qui n'est pas si riche. Enfin,
C'est
qui
ça.
fait. Enfin, il y a de la place pour eux aussi, quoi.
Ouais. C'est un peu les vices des formats tournois. C'est-à-dire que bon, bah, il y a forcément bah, il y a des vainqueurs, mais il y a aussi des perdants. Et c'est vrai que ceux qui perdent tôt dans le tournoi peuvent plus pâtir de ce type de défaite qu'une défaite, on va dire, classique dans un show hebdomadaire sans forcément d'enjeu. Là, on se dit, bon,
Oui.
bah voilà, eux, ils sont sortis en quart. Donc,
Et
bon, bah, ils.
puis, en fait, contrairement, enfin, justement, comme tu disais la semaine dernière, ben, Brisango, ils ont perdu, mais ils ont
Ils ont perdu avec panache, quoi. Tu vois, c'est.
avec panache. Donc, voilà, ce qui n'a pas été le cas des Vaudevillains. On aurait aimé un match un peu plus long, un peu plus solide. Franchement, les deux équipes ont un niveau tel que, bah, enfin, comment dire, il aurait pu avoir un affrontement plus serré entre les deux. Voilà. Quand même, c'est pas du, voilà, c'est de la low card, mais bon. Du squash sur de la low card, c'est quand même pas très intéressant. C'est pas comme ça qu'on construit l'avenir. Bref, ça reste un tournoi, donc on va pas non plus
Non, on va
tirer
écouter.
trop de conclusions. On enchaîne justement avec la deuxième équipe composée de
East
Heath Slater
Slater.
et Rhino. Mais avant de vous annoncer qui ils vont affronter et vous décrire le match, on a un petit reportage vidéo, hein, façon ah c'est pas
Bah,
striptease, vous
c'est
souvenez-vous de
genre
cette émission
c'est en
striptease,
mode
mais
tellement vrai
en
où
mode voilà,
j'imagine.
vis ma vie de clitus des Simpsons dans le bayou là dans mon mobilhome. Donc, Heath Slater, on apprend qu'il vit en Virginie-Occidentale,
Voilà.
dans une petite maison, voilà, on pourrait se croire dans un mobilhome. Donc, Ronnie
Ah
Young,
bah
qui
c'est
est
un
donc.
mobilhome, je crois. Hein.
C'est un mobilhome,
Mais il me
bah,
semble. Ouais.
ça ressemble beaucoup à un mobilhome. De toute façon, 90% des Américains vivent dans un mobilhome ou dans leur
Faut le
voiture.
savoir.
Il faut le savoir. Donc, Renee Young a fait le déplacement. Donc, c'est elle qui va aller interviewer donc Heath Slater, qui la reçoit donc chez lui, à la maison. Rhino est là. Il est là.
Il
Donc,
est là, il
visiblement,
chill.
un ami de la famille. Hein,
Ouais.
il chill, il regarde par la fenêtre, il est plongé dans ses pensées. La femme de Heath Slater est là également. On nous la présente. Alors, c'est un sacré numéro. Hein. Physiquement, je vous invite à voir la vidéo parce que, bah, clairement. Elle porte bien le rôle, quoi.
Ouais.
Elle porte le doux nom de, alors je ne sais plus comment on le prononce, mais
J'ai pas reconnu, moi
Bula.
je sais plus, moi je l'appelais la grosse Shakira parce qu'elle ressemblait un peu, mais avec
Grosse
30 kilos de
Shakira,
plus.
écoute, bah écoute, oui, donc la gauche.
Avec 30 kilos de
Whenever,
plus.
whatever. Je pense qu'Heath Slater, voilà, à défaut d'avoir la véritable Shakira. Voilà, il s'est reporté sur probablement une doublure pour un des nombreux clips de Shakira. Donc, bah, René Young est bien reçu, hein, puisqu'on lui apporte des crackers et du fromage en tube.
Oh,
Et dont
putain.
les Américains raffolent.
Ah là là
Au passage, Rhino fait un petit dessin. Il dessine un petit smiley triste
là. Sur son
sur
cracker.
l'un des crackers. Donc, voilà, c'est vraiment une séquence qui est bourrée comme ça de plein de non-sens. Et c'est très, très, très drôle. Donc, René Young demande où sont les enfants, parce que vous savez, Slater a beaucoup parlé de ses enfants dans le passé pour.
On ne connaît pas vraiment le nombre d'ailleurs d'enfants. Mais...
Voilà, donc tout à l'heure, je parlais de Cletus des Simpsons. Hein, si vous connaissez la série, évidemment, Cletus a un nombre incalculable d'enfants. En plus, ils sont tous les deux roux, donc ils partagent beaucoup tous les deux. Donc, où sont les enfants? Donc, Heath Slater répond qu'ils sont partis dehors fouiller pour trouver des bouteilles et des canettes. Voilà, donc c'est les occupations hein, des gamins qui vivent dans des mobil-homes et dont leur père est catcheur. J'imagine que tous les enfants font ça. Donc, on revient un petit peu sérieux. Renee Young interroge Heath Slater sur la draft. Donc, Heath Slater répond que bah, je vous rappelle qu'il n'avait pas été sélectionné. Donc il explique bah c'était la faute de personne, juste un oubli quoi. Donc pas très revanchard, hein, Heath Slater. On enchaîne en plus avec, après, pardon, avec des images de ces différents affrontements, notamment face à
Oui.
Randy Orton et Brock Lesnar, où il a subi des dérouillés assez imposantes. Hein. Mais Heath Slater, hein, il se défile pas, hein, il répond qu'il était honoré d'avoir été le premier, d'avoir offert le premier match de Randy Orton pour son retour, et qui bah, il est tout simplement bah, heureux, en tout cas, d'être toujours en vie après son match face à Brock Lesnar. Donc finalement, il s'en tire plutôt bien. Renee Young, qui aperçoit que Rhino est toujours plongé là dans ses crackers, lui demande: Mais pourquoi as-tu accepté de t'associer avec Heath Slater? Rhino répond en haussant les épaules. Visiblement, il sait pas trop pourquoi.
Pourquoi pas?
Ou alors, c'est plutôt pourquoi pas. Heath Slater rétorque qu'aucun GM ne peut répondre à ses prétentions salariales, visiblement, mais qui sont probablement très très hautes, hein, mais qui seront, donc lui et Rhino, les premiers champions tag team SmackDown. Donc ils ont quand même ces deux types qui vivent dans un mobile home à trois, plus les enfants, mais qui ont de l'ambition. Et ça, c'est important. Bref, retour aux affaires, au business, retour au ring. Donc, arrivée de cette nouvelle équipe. Au passage, je remarque dans le public, je ne sais pas si tu as vu ça, Giscale, mais des pancartes Is Kids
Ah non, j'ai pas vu ça.
dans le public. Tu vois ces petites affiches Cesaro Section?
Oui,
Eh ben, les mêmes. Donc,
oui.
j'imagine qu'un bout en train on a ramené dans le public,
C'est pas
mais à
mal
la
ça.
place avec écrit les enfants de
Les
Is
enfants
Slater.
de 7 heures
Donc tu avais une marée comme ça de jeunes adultes se réclamant enfants, donc progéniture de l'ami Slater. Donc je pense que ça peut être un running gag assez sympa à
Sympa.
revoir plus tard. Donc on en parlait tout à l'heure, ils affrontent ce soir une équipe de revenants, puisqu'il s'agit, alors pour ceux qui s'en rappellent, des
Moi,
Headbangers,
j'avais jamais vu ça, moi.
donc qui n'ont pas mis les pieds à la WWE depuis 15 ans. Hein, donc
Ouais, je crois que c'est
c'était
ce qu'ils
à
ont dit, même 16, je sais plus.
ouais, 15, 16, je pense que là, à un moment, on ne compte
Ouais.
même plus. Donc, ils avaient un gimmick un peu de métalleux,
Manifestement, en kilt.
magnifique. Voilà, en kilt. Donc là, ils arrivent, c'est plus en mode papy rocker. Hein, là, c'est, je sais pas, les Rolling Stones ou quoi. Enfin, voilà, ils ont pris un coup dans la caboche. Donc, bah, franchement, le match, c'était bien mou. Rien à vraiment à noter de particulier, en tout cas de mon côté. Si ce n'est que Rhino dans le match s'est pris un seul coup et il s'est fait péter l'arcade par un des deux gars qu'ils
Oui.
affrontaient. Donc bravo Rhino, le mec s'est
Un
pris
forfait.
un coup aux abords du ring en
Mais
plus.
ils l'ont peut-être frappé avec leur bracelet à pointe, je
Le bracelet de force à pointe.
sais
Bref, il était en sang. Donc Cole est rentré, il a offert la victoire avec son fameux gore, sa prise fatale. Une victoire de Slater et Rhino, qui sont donc qualifiés pour les demi-finales. Ils affronteront donc les Highbrow dans un
c'est
match
ça,
qui est très très attendu,
qui est très très attendu, exactement.
qui fera probablement le main event du prochain SmackDown. Que dire bah, tout ça, j'ai passé beaucoup de temps à décrire ce qui s'est passé, parce
Sur
que
l'interview
franchement,
immersion.
l'interview immersive, parce que c'était franchement la séquence à retenir.
Oui,
Moi, ça m'a fait
plus
beaucoup
que le match.
penser à ces vignettes de la team Hell No. Est-ce que tu t'en souviens, il y a quelques
Oui,
années,
oui, oui.
où on filmait un peu presque comme une série télé, toi. Il y avait ce
Ouais, un petit
côté,
peu.
les caméras sont, enfin voilà, on oublie le côté
S'infiltre,
réaliste et elles
finissent. Ouais.
s'infiltrent. Ouais. Donc ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et puis en plus, voilà, la relation entre Heath Slater, l'interaction entre Heath Slater et Rhino n'est pas sans rappeler celle entre Daniel Bryan et Kane. On avait à peu près, on va dire,
Carrément.
la même alchimie entre les deux. Donc, que penses-tu de cette histoire de Heath Slater, qui m'a l'air bien parti pour avoir une bonne grosse visibilité, en tout cas, dans les prochaines semaines?
Bah écoute, moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait énormément rire, hein, le côté l'interview de Renee Young qui vient donc s'immiscer dans le quotidien d'Heath Slater pour venir comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête du hottest free agent. Donc bon, c'était moi. Bon, j'imagine que c'est le genre de segment où on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi j'étais absolument hilar devant. Tout était drôle, le coup des crackers, la femme horrible qui était un cliché absolu de la rombière américaine du Middle East là, genre qui vit dans un mobile home là, c'est exactement ça. Et puis tous les petits enfants qui jouent à ramasser des bouteilles. Enfin bref, c'était très marrant. Donc j'ai adoré. Et puis manifestement ça marche bien avec le public, l'équipe fonctionne bien. Au niveau du match, il y a Bon, y a rien à dire. Par contre, le match était vraiment pas terrible. Et ça confirme le sentiment qu'on avait après le premier match, à savoir que bon, la première partie du tableau du tournoi, c'est les équipes sérieuses, on va dire. La deuxième
Ouais,
partie,
c'est à gauche les équipes sérieuses, à droite
à
les
droite,
équipes pas sérieuses, quoi. Les rigolos.
c'est la comédie. On sent que tout le bas du tableau est axé autour de cet angle, finalement, de Isletter. Donc, ça devrait continuer en demi-finale. Je pense qu'ils vont gagner. Et puis bah après il faudra voir.
Donc rendez-vous à Backlash pour Isletter.
Oh oui, moi je
C'est
pense. Ouais. Je pense. Après voilà, à mon avis, il n'est pas impossible que tout cet angle aboutisse jusqu'à vraiment une victoire effective du tournoi. Je pense que ça va dépendre dans les semaines. Enfin, déjà cette semaine à jouer pour lui, et la semaine prochaine, faudra voir aussi finalement la réaction du public aussi. Je pense, à mon avis, si la WWE voit que le public accroche vraiment énormément à cette équipe, il n'est pas du tout impossible qu'il les fasse gagner. Et puis qui développe un angle autour de cette équipe après pour les inclure dans le roster. Après, s'ils voient que ça marche un peu moins bien avec Rhino, je pense qu'ils doivent avoir deux plans, et puis ils lâcheront Rhino et puis ils referont quelque chose d'autre autour de Slater en mode free agent pour le trouver une autre porte d'entrée dans l'émission, mais ils trouveront quelque chose d'autre. Mais je trouve ça assez marrant. Donc s'ils deviennent suffisamment over, ça peut être assez drôle. Après, bon, c'est toujours le même truc. C'est est-ce qu'on sacrifie le premier champion de l'histoire des Tag Team SmackDown sur l'autel de la comédie, je sais pas.
Bah on l'a bien fait avec le titre Universal Championship à Raw.
Oui. Donc bon, à voir. Mais je pense que c'est possible. Donc c'est bon, moi j'aime bien. C'est assez drôle. Après voilà, faut aimer l'humour. Mais je trouve que c'est plutôt bien fait et ça prend pas trop trop de place dans l'émission. Ça va. Le match était court. Voilà.
Donc, bah, justement, on va continuer. Excuse-moi, Jessica, de te couper, mais on va continuer sur le registre de l'humour parce que visiblement, t'aimes bien rigoler avec une séquence backstage entre AJ Styles et Apollo Crews. Donc, AJ Styles, qui porte toujours son bandeau dans les cheveux. Donc, est-ce que c'est le bandeau de John Cena? Je me
Ah,
souviens
toujours,
plus.
toujours,
Toujours, hein, donc tel un trophée. Donc,
ouais,
vraiment,
ça
les
commence
laits.
à m'agacer.
Bah, je pense qu'il ne fait ça que pour te provoquer.
Je pense.
Donc là, il a vraiment une tête. On parle de la fameuse soccer mom.
Ah bah là,
Là,
on
en
est
plus,
dedans, hein.
ah là là, c'est un mélange entre donc la soccer mom, donc la maman de footeux, et un joueur de tennis des années
Des années 80.
80-90. Voilà. Donc toujours est-il que AJ Styles croise Apollo Crews backstage, qui donc lui épelle son nom, hein, Apollo Crews. Donc Apollo Crews lui dit que ça s'écrit Crews, et il se fait charrier par AJ Styles, qui lui rappelle sa catchphrase en disant qu'il est the face qui runs the place, et donc il en profite pour épeler Place, donc
Ouais.
Place. Donc petite pique, et on capitalise vachement sur la petite bourde donc de Daniel Bryan d'il y a quelques semaines. AJ Styles rejoint le ring pour une longue tirade, donc il se la pète toujours, hein. Il est le face qui runs the place, qui a battu John Cena, qui l'a rebattu à SummerSlam et qui va battre Dean Ambrose. Apollo Crews apparaît. Et il demande, AJ Styles lui demande si Daniel Bryan lui a donné, enfin s'il allait voir Daniel Bryan pour obtenir un spelling bee, donc c'est le fameux
Les concours de. Ouais.
concours d'orthographe, ou en tout cas concours d'épellation
C'est ça.
très cher aux Américains, où des enfants s'affrontent pour épeler des noms, des mots de plus en plus compliqués.
C'est ça.
Donc évidemment, encore une pique de AJ Styles. Mais Apollo Crews ne se démonte pas, dit non, 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 moi je suis allé demander, c'est un match, qu'est-ce que tu crois? Je suis catcheur, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je catch. Et que ce match, ben, c'est right now. Donc, bah voilà, Apollo Crews allait se booker un match visiblement près de Daniel Bryan face à AJ Styles. Donc, le match, bah, c'est un match très très qui met en avant vachement l'agilité des deux, hein, parce qu'AJ Styles et Apollo Crews, ces deux gabarits,
Qui
c'est un
virevolte,
qui
ouais.
virevolte. Voilà, on enchaîne les dropkicks, forearms, ça se balance dans les cornes, dans les turnbuckles, ça saute à gauche, à droite, dehors, dedans. On se retrouve justement plusieurs fois à l'extérieur du ring. Apollo Crews, à un moment, place un moonsault. AJ Styles enchaîne sur une leaping lariat pour placer justement Crews dans les cordes. Après, il va enchaîner sur un saut depuis la seconde corde, mais il se fait cueillir comme un bleu, si je puis dire, par Apollo Crews, qui leur dépose alors, délicatement avec un Samoan driver. On compte de deux après ce joli enchaînement.
Ouais.
AJ Styles riposte, coup de botte, brise-mâchoire, etc. Phénoménal forearm, évidemment, qui donne la victoire à AJ Styles. Donc, Apollo Crews, donc c'est une défaite pour lui. Mais en tout cas, il a commencé enfin, si je puis dire. Je pense qu'il a enfin ouvert son livre. On a dû lui donner un bouquin. Je sais pas, ils ont peut-être une bibliothèque à la WWE. Parce que là, il a dû ouvrir chapitre 1, paragraphe 1 de l'exercice du comment devenir catcheur à la WWE. Parce qu'il nous a enfin offert une promo. Où il était un peu dedans,
Oui, c'est vrai.
toi. C'était l'exercice classique, hein. Ouais, je suis allé voir le GM, il m'a donné un match, et ce match, c'est maintenant. Ça, on l'a
C'est
tous
ça.
entendu des milliers de fois, mais voilà. Mais pas de la bouche d'Apollo Crews. Donc, Apollo Crews qui s'est, voilà, qui enfin montre qu'il est là et
Qui fait
voilà,
partie du
qui fait
roster,
partie du roster.
qui vit dans le roster. Mais ouais, d'ailleurs, ça me fait toujours marrer ces petits segments parce que du coup, c'est sûr. Il faut vraiment faire 100% confiance à Apollo Crews parce que tu te dis qu'est-ce qu'il te dit pas qu'il t'est mytho et que en fait Daniel Bryan lui a rien donné du tout. Mais bon, c'est mon côté auditeur, ça. Faut tout vérifier. Mais ouais, moi, je suis un peu, je suis mi-figue, mi-raisin là-dessus. J'ai beaucoup aimé toute la partie micro. Qui faisait bien un écho à la semaine dernière et à la construction de tête à claque d'AJ Styles qui va du coup manifestement provoquer un par un les gens du roster. La semaine dernière c'était Dolph Ziggler, cette semaine c'est Apollo Crews, donc il s'est fait une spécialité d'énerver manifestement les gens dans les coulisses pour se faire ensuite un petit match. Donc je trouve que c'est bien parce que ça l'occupe jusqu'à Backlash avec des matchs frais, avec des nouvelles, avec des choses qui pourront peut-être potentiellement resservir plus tard. Il provoque des mini rivalités futures, donc c'est pas mal. Et puis même comme tu disais, bah, Apollo Crews de son côté, voilà, il a fait une vraie promo, il est impliqué dans un angle important avec le the face that runs the place, l'enfoiré d'AJ Styles, hein. Donc c'est de ce côté-là, dans la construction et dans les implications pour plus tard, c'était bien pour les deux. Après, moi, j'ai été encore une fois très déçu par le match. Bon, tu seras peut-être pas d'accord avec moi. Moi, j'ai trouvé que je crois que j'ai lu ça sur, je me souviens plus, j'ai peut-être lu ça sur 411, il me semble, mais j'avais bien aimé la comparaison de ce match-là avec le Jericho Neville de Raw, parce qu'on avait un petit peu la même opposition de. Même opposition de style, un mec très très établi, très expérimenté contre un jeune qui cherche à faire ses preuves. Et je trouve que cet exercice avait été beaucoup 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 mieux réussi à Raw que là ce soir, où je trouve que Apollo Crews avait une opportunité vraiment une grosse opportunité de se montrer et un petit peu passé à côté avec un match finalement assez quelconque où il s'est pas forcément mis plus en valeur qu'autre chose, et c'est dommage parce que des matchs de très haut profil comme ça, en milieu d'émission, il n'en aura peut-être pas 36, donc c'était quand même une
C'est-à-dire qu'il
chance.
n'a pas saisi une occasion
Voilà, moi je
assez
trouve qu'il
quasiment
a.
presque unique
C'est ça, je
de
trouve qu'il
ouais.
a pas saisi la balle au bon de faire un gros match contre un mec qui est quand même spécialiste pour sortir des très gros matchs contre n'importe qui. J'ai trouvé ça un petit peu léger parce que voilà, c'est typiquement le genre de match où le public, bah voilà, il a toute l'attention du public parce qu'il y a AJ Styles dans le ring. Donc c'est le moment de faire tout péter, de se montrer comme une star. Évidemment qu'il allait perdre, c'était sûr. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu terne comme prestation et que c'était dommage parce que je me dis qu'il n'en aura peut-être pas non plus 36.
Ouais, je ne sais pas s'il s'en rend compte. Enfin, Apollo Crews, c'est assez difficile son cas finalement parce que bah c'est ni la première ni la dernière fois qu'on parle de lui en ces termes. Effectivement, où c'est un catcheur qui a beaucoup de talent d'un point de vue technique, qui a un gabarit assez particulier. Mais après, dès qu'il faut sortir du match d'entraînement, quasiment, on retient pas grand-chose. Là, il a essayé quelque chose un petit peu avec cette voilà de s'imposer en disant hey, regardez, enfin voilà,
Ouais,
une promo.
ça c'était pas trop mal, ça.
Mais
Mais
bon, alors bon, ça reste très classique évidemment, mais c'est vrai que ce match-là, c'est pas un match qui nous fait dire ah tiens, Apollo Crews, ça y est, c'est quelqu'un qui compte.
non, voilà. Et puis même quand il avait eu son title shot contre le Miz pour le titre intercontinental, c'était relativement terne et quelconque aussi. Donc on va dire que ça fait deux gros coups. Est-ce qu'il en aura un troisième? Je sais pas. Faudra voir. Mais c'était un peu dommage. Voilà. Moi, je trouve que c'était vraiment dommage. C'était une belle occasion.
Bon, alors en tout cas, un qui maîtrise peut-être un peu plus les promos, quoi qu'on en dise par rapport à son contenu, c'est Bray Wyatt, puisque Bray Wyatt nous a promis, alors j'ai beaucoup aimé, un sermon pour un serpent.
Oui,
C'était
serment.
le titre de la séquence,
Ça.
donc c'est un titre de bouquin, je ne sais pas, un
Ah oui,
polar.
bah.
Moi, je suis tout de suite allé voir sur le shop de la WWE pour voir si on pouvait pas commander le livre, mais il n'est pas encore disponible.
Non, pas
Et du coup,
encore.
il n'existe pas du tout en fait, mais il reste à écrire. Bray Wyatt donc arrive sans son chapeau, mais avec sa musique et ses lumières éteintes et sa petite lanterne. Donc il déclame qu'il n'a pas peur des serpents. Bon, évidemment, il s'adresse à, en tout cas, il fait référence à Randy Orton, hein, puis tous les deux sont entrés en rivalité. Qu'il n'a pas peur des monstres, il a peur de personne. Que c'est lui, je suis la peur, dit-il. Orton n'est pas cette espèce de serpent mythologique qu'on pourrait croire. C'est un homme qui croit avoir du venin en lui. Et c'est surtout un homme blessé après son fameux match, vous vous souvenez, face à Brock Lesnar. Hein, et c'est ça qui plaît à Bray Wyatt, hein, visiblement.
C'est ça.
Randy Orton est blessé, il est malade.
Donc il est
Et
humain.
il est humain et Bray Wyatt donc, veut le soigner, il veut s'occuper de lui. Interruption de Randy Orton, qui s'adresse à Bray Wyatt, qui lui dit, écoute. Moi, j'ai effectivement j'ai les voix dans la tête, mais là, ce que les voix me disent te concernant, c'est mais pour qui il se prend ce type, quoi?
Ça.
Donc, on a toujours Randy Orton qui joue beaucoup avec ce gimmick de voix dans sa tête. Donc, il enchaîne après. Donc, il dit tu dis que voilà, il parle de ses cicatrices, que ses cicatrices l'ont blessé, etc. Mais il dit qu'il l'aime bien, mais que. Non, pardon, ça c'est pardon, c'est Bray Wyatt
Oui.
rétorque. Hein, il lui dit, écoute, je t'aime bien, mais contrairement à ce que tu dis, tu n'es pas le prédateur. Hein, il s'adresse à Randy Orton, qui a souvent le sobriquet de la réputation d'être le prédateur, hein, The Apex Predator.
C'est ça.
Il dit, c'est moi le prédateur, et je veux te couper la tête, je vais couper la tête du serpent que tu es à Backlash. Donc, clairement, il lui propose un match à Backlash, on a tous compris.
Oui.
Donc, Randy Orton réfléchit un peu, et il annonce qu'il accepte le défi. Donc il monte sur le ring pour en découdre, mais Bray Wyatt disparaît dans la nuit. Voilà, ah, coupure, les lumières s'éteignent. Avant c'était pour faire apparaître Luke Harper et Eric Rowan. Maintenant c'est pour faire téléporter Bray Wyatt, je sais pas, dans les vestiaires, au restaurant, ou je ne sais pas, hein, peut-être que c'est totalement
Bowling, on
aléatoire.
sait pas.
Bray Wyatt disparaît et il apparaît, mais on ne sait pas où. C'est Code Quantum, toi, le mec qui apparaît, je ne sais trop où. Donc voilà, fin du segment, hein. Assez, assez brutal, mais on a l'habitude avec Bray Wyatt, tous ces segments se terminent un peu ainsi. Alors moi, je sais pas, une chose que j'ai aimée, c'est que Randy Orton a quand même assez pris au sérieux Bray Wyatt,
Oui,
toi. Hein.
c'est vrai, il a pas tourné en
Contrairement
dérision.
à beaucoup d'autres, on va dire, têtes d'affiche dans le passé, notamment John Cena ou bien d'autres. Hein, prenez pas trop Bray Wyatt au sérieux, toi. Hein. On avait tendance un peu à
C'est vrai.
ridiculiser sa gimmick.
C'est ça.
Là, Randy Orton a dit, écoute, je pense que toi aussi, on a nos démons, voilà. Ça, j'en ai pas parlé. Il
Ouais,
lui a dit, mais
ouais.
j'ai mes démons, t'as tes démons. Donc, on a un peu, toi,
Il s'identifie un petit peu de
voilà,
ce
ils
côté-là.
s'identifient exactement. Ils se sont mis un peu, ils se sont mis, voilà, sur le même niveau, toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec cette promo, qui était encore une promo habituelle, évidemment, de Bray Wyatt. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Randy Orton, parce que on se souvient que Randy Orton est revenu en mode un peu. Blagueur taquin,
Oui,
hein,
oui,
et j'avais moi un petit peu peur que justement ça prenne trop le dessus avec cette rivalité de Bray Wyatt et que bah qu'il passe son temps à ne pas prendre Bray Wyatt au sérieux. Donc il a la confiance, évidemment la confiance de Randy Orton, hein. Je vais te battre, quoi.
Oui.
T'inquiète pas, Bray Wyatt, tu parles et moi je tape. Mais ils sont mis, voilà, ils sont mis au même niveau et il prend cette menace, en tout cas, au sérieux. Et en tout cas, Bray Wyatt, un adversaire sérieux, comme tu dis, avec qui il a des points communs.
Ouais, bah écoute, ouais, moi je partage 100%
Ah oui, cool.
de ton analyse
Super.
sur ce segment qui était vraiment, j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très bon Bray Wyatt, je l'ai trouvé vraiment excellent sur cette promo, dans son style bien à lui. Et en effet, la lecture que tu as de la réponse de Orton, je la partage aussi et je pense qu'elle est très importante parce que le salut. Enfin, si tant est qu'il ait besoin d'être sauvé, mais en tout cas, le futur du personnage de Bray Wyatt à SmackDown, que moi je vois comme étant vraiment excellent, passera par ce type d'échange avec des top stars où justement on le prendra au sérieux, tout en gardant quand même, voilà, tu sens quand même que Randy Orton garde un petit peu ses mimiques, ses attitudes de mec très sûr de lui, donc ça, il garde quand même un petit peu cette partition-là, mais il le prend au sérieux et c'est super important pour que les promos de Bray Wyatt fonctionnent. Il faut quand même qu'il y ait le mec en face qui arrive à s'identifier un minimum, ou à trouver du vrai dans les menaces du Eater of Words, là, donc c'était vraiment un bon échange. Ça a bien hypé le match qui donc manifestement est officiel à Backlash. Et je pense que d'ailleurs ça va être un match assez sympa dans un style plutôt qui s'annonce assez original. Je pense ils vont avoir leur place dans la carte bien à eux parce que voilà on connaît Bray Wyatt avec son style particulier plutôt brawler. Capable d'acrobatie par moment, et puis Randy Orton qui revient plutôt bien en forme, moi je trouve, je l'ai trouvé dans ses petits matchs de préparation avant Brock Lesnar, et puis même contre Brock Lesnar, il est plutôt fit, plutôt agile, plutôt rapide, donc ça va être une opposition de style très sympa.
Ouais, beaucoup
Donc voilà.
les, ces deux catcheurs qui ont beaucoup d'impact, hein, où tout d'un
Ouais,
coup, ils peuvent
c'est
faire
ça
basculer
exactement,
rapidement le match à
qui
leur
sont assez
avantage.
incisifs dans leur style, donc ça va être bien. Et puis bah voilà, donc la rivalité est officiellement lancée. Je pense que c'est une très bonne chose pour Bray Wyatt, je me répète encore.
Il en avait, comme tu dis, il en avait vraiment besoin, enfin, il en a besoin, hein,
C'est ça,
pour.
il a besoin d'être pour monter dans la carte, il a exactement besoin de ça. Donc c'était très bien exécuté. Voilà, j'ai un bon segment, ni trop long, ni trop court, bien un bon boulot des deux, très bien.
Alors, un autre segment, je ne sais pas si c'était bien booké, si tout le monde, s'il y en a qui sont ressortis grandis de ça, c'est le match de la division féminine. Ce soir, Natalia faisait équipe avec Alexa Bliss et elles affrontaient Becky Lynch et Naomi. Au commentaire, Nikki Bella, qui avait été attaquée par Carmella la semaine dernière. Donc
C'est
évidemment,
ça.
il parle de ça pendant les commentaires. Donc Naomi et Natalia commencent le match. Ça s'échange des coups de pied, des sidekicks, coupure pub, parce que c'est quand même un match des filles, donc faut pas déconner. Natalia dégage Becky Lynch des abords du ring. Elle fait le tag avec Alexa Bliss. Elle porte une prise à deux, un double air whip. Naomi donc nettoie un peu le ring à coups de pied, fait des lariats, hop, tac sur Becky Lynch qui elle aussi nettoie le ring. Il n'y a pas de raison, tant qu'à faire. Elle tente un tombé sur Alexa Bliss et là, attaque de Carmella venue du public sur Nikki qui était donc au commentaire, je vous le rappelle. Donc qui passe à tabac la femme de John Cena et Alexa Bliss donc en profite pour faire un roll-up en tenant la culotte à Becky Lynch et victoire de Natalia et Alexa Bliss. Les méchantes l'emportent et je n'ai noté aucune question pour ce segment. Donc si tu as quelque chose à dire, mon bon Giscal, sur la division féminine en général, sur le fait de se tenir la culotte pendant les matchs.
Non, rapidement, j'ai été très déçu par le match, encore une fois, même si j'ai apprécié l'effort de mettre tout le monde en valeur avant le six-pack challenge de Backlash, ça c'était plutôt appréciable, mais sinon le match était très décevant. Enfin, il n'y a aucun moment où ça m'a intéressé, pourtant c'était plutôt long, ça fait genre 8 minutes.
Bon, tout a été mis, je pense, pour la feu de Nikki
C'est
Carmella,
ça,
quoi.
et puis bon, bah, Carmella qui revient encore attaquer Nikki par derrière. Si elle veut pas devenir, à mes yeux, une vulgaire, si ça veut pas devenir une vulgaire copie de la feu de Natalia Becky Lynch qui m'avait rendu fou parce que je comprenais pas pourquoi
Ouh, j'en ai encore des frissons.
semaine après semaine, je comprenais pas pourquoi Natalia venait juste agresser la pauvre Becky Lynch par derrière non-stop. Bon, bah là, c'est ce qui est en train de se passer, donc il va peut-être falloir à un moment ou à un autre nous donner des explications. Parce que là, pour l'instant, moi, enfin, personnellement, j'en ai rien à foutre. Donc, bon, voilà, c'est pas extraordinaire. Ça piaille, ça crie, ça se tire les cheveux, mais
Ça
c'est
catche pas, c'est pas du grand catch,
pas
c'est
des
pas des grandes
masses, hein.
séquences, et il reste encore un épisode pour se
C'est ça.
rattraper.
Donc, il y a une division, hein, mais il va falloir s'en servir un peu mieux.
The Division, des filles, mais n'oubliez pas les filles que dans 10 jours, bah, il y aura une
Il y aura
championne
une championne, donc il va falloir
à
passer aux choses
couronner,
sérieuses. Ouais.
faire les choses sérieuses. Alors, pour rester dans le sérieux, Arrow, ils ont des squash matchs.
Oui.
Ils ont notre ami Braun Strowman,
Oui.
qui toutes les semaines vient démonter des inconnus, qui, pour des raisons diverses et variées,
C'est ça.
viennent s'offrir au gros monstre. Ils ont également Nia Jax, donc le pendant féminin de Braun Strowman, qui pareil démonte semaine après semaine, ou de jeunes filles qui viennent s'offrir à elle. Du coup, SmackDown, qui veut mettre en avant le vrai catch, les jeunes stars, etc., nous propose un squash match entre un revenant, Kane, qui avait été donc drafté à SmackDown pour ceux qui avaient oublié,
Oui.
qui affronte ce soir le laitier, The Milkman. En tout
Ouais.
cas, l'homme lait, donc j'imagine
C'est
que c'est
ça.
le laitier, hein,
C'est ça,
j'espère.
le laitier, c'est absolument ça.
Donc un jobber, un compétiteur local à qui on a proposé donc un match comme on fait à Raw, et qui donc est venu et qui attend attend son adversaire, et cet adversaire, hop, les flammes apparaissent, c'est Kane. Donc Ken qui arrive, hop, il porte sa prise de finition, là, sa prise de finition. On s'en fout du nom, on s'en fout de Ken, on s'en fout de cette séquence. On enchaîne avec le main event. Nous, on n'en veut pas du Jobber World dans notre
Non,
émission,
non,
merde.
non, là on avait atteint le point le plus bas du show, là.
Aïe, aïe, aïe. Donc on repart dans le... On repart, on essaye en tout cas de repartir dans l'autre sens, si je
Oh,
puis dire.
on ne pouvait que monter après ça.
On pouvait que monter, même si là ça va être un peu difficile. En tout cas, bref, Dean Ambrose affronté ce soir Baron Corbin. Baron Corbin qui est donc effectivement toujours là, hein, visiblement. C'était un peu l'épisode aussi de certains revenants, de deux gars qu'on voyait plus trop. AJ Styles évidemment est au commentaire pour commenter le match
Forcément.
de son copain Dean Ambrose. Donc le match commence avec des headlocks de feignasse. Baron Corbin place un coup d'épaule de feignasse. Ambrose reprend le dessus avec une clothesline de feignasse. Flying crossbody de Ambrose, cette grosse feignasse. On se retrouve en dehors du ring avec les deux feignasses. Tête de Corbin qui atterrit sur la table des commentateurs. Un stunner de Ambrose, mais un stunner de feignasse quand même. Corbin reprend le momentum avec un dropkick. STO. Et compte de deux. D'un arbitre qui c'était sûrement une grosse feignasse, hein, j'en sais
Oui,
rien.
je pense, c'était. Oui, je pense.
Donc là, les lariats versus les forearms, ça se met sur la tronche. Suicide dive de Ambrose, suivi du fameux deep six de Corbin. Alors, feignasse, mais c'était joli, il
Oui,
faut le dire.
il
C'est
faut
une
quand même le
jolie
dire.
prise. Voilà. On se retrouve dehors. Donc, AJ Styles quitte la table des commentateurs. Il vient chauffer Corbin. Ambrose pousse Corbin qui pousse AJ Styles. Les deux se retrouvent quand même sur le ring. Les deux adversaires se trouvent sur le ring. AJ monte sur le ring également. Il plante un coup de genou. Alors, il me semble dans Baron Corbin,
C'est ça.
mais je vais te dire pourquoi je dis ça, parce que ça provoque la DQ,
Oui.
dans les disqualifications. Et alors moi, du coup, j'ai dans ma tête, c'est victoire
De Baron Corbin.
de Baron Corbin. On est
Oui.
d'accord. Mais
Oui,
ce que
oui.
j'ai vu sur un autre site, c'est mis victoire de Dean Ambrose par DQ. Mais je
Ah
pense qu'ils
bon.
se sont trompés.
Oui, je pense
C'était
aussi.
un mauvais site internet. www.com, quelque
Oui.
chose
Non,
comme
c'est
ça.
très mauvais site internet, ça.
Donc après le match, Ambrose s'en prend forcément à AJ Styles. Donc les deux se mettent sur la gueule. Ça passe sur la table des commentateurs. Ça se met sur la tronche. Baron Corbin revient. Il attaque Dean Ambrose par derrière. Corbin balance Ambrose donc sur le ring. Ambrose le cueille avec son Dirty Deeds. AJ Styles va en profiter, il dit ah super, je vais pouvoir lui mettre mon petit phénomène forearm. Mais Ambrose envoie Styles dans les cordes de façon, on va dire, très compliquée quand on est un garçon, mais sûrement aussi quand on est une fille. Quand on est un être humain avec des
Ça fait
sentiments, c'est
jamais
toujours
plaisir.
compliqué de
Voilà.
se retrouver avec les couilles broyées sur la troisième corde. Je tenais à le préciser. Ne faites pas ça à la maison.
Non, surtout pas.
Et Dean Ambrose, donc, hop. Oh, qui voit la scène, qui visiblement l'amuse, donc il se pose, il s'arrête et il s'amuse, voilà, un peu farceur, il secoue les cornes, donc faisant hurler de douleur l'ami Styles. Il lui serre la main, voilà, donc voilà, et il sort du ring avec le titre, laissant ainsi AJ Styles pleurer parce qu'il n'aura pas de cinquième enfant, et non. C'est ainsi que se termine le show. Dean Ambrose,
cette feignasse
doit-il perdre à Backlash et disparaître de la WWE?
Disparaître, je ne sais
pauvre
pas.
Toujours rejoindre Dolph Ziggler dans son caniveau. C'est ma pas. Question, forcément un peu provoque.
Ouais.
Mais voilà, quel est ton avis un peu là-dessus sur le match, sur la prestation d'Dean Ambrose? Parce que voilà, on a beaucoup de gens. Enfin, les gens commencent. C'est comme si les gens découvraient ou redécouvraient Dean Ambrose qui n'arrive finalement pas à aller plus loin que le rôle qu'il se donne depuis qu'il est champion, mais qu'il avait déjà avant, toi.
Ouais, ouais.
Et son style de catch, bah, assez pauvre, hein, qui est vraiment dans de la baston. C'est du backyard wrestling. Hein,
ouais, c'est ça.
Donc c'est pas très flamboyant.
Ouais,
mais également pas, sur. Aussi, je te pose la question sur son. Mm-hmm. Bah son acting, quoi, et sa façon de gérer un peu la feud avec AJ Styles.
Ouais, sur la gestion de la feud, ça me dérange pas trop. Je trouve que même limite, ça, moi, ça marche pas trop mal de mon côté, parce que enfin, j'aime bien le Dean Ambrose lunatique, dans tête en l'air, qui pense qu'à se marrer et qui se fout un peu de la gueule de ses adversaires. Je trouve que ça c'est plutôt drôle. Par contre, le Dean Ambrose dans le ring commence sérieusement à me gonfler aussi. Donc je suis un peu perplexe. Je saurais pas forcément répondre à ta question, savoir est-ce qu'il doit perdre, est-ce qu'il doit perdre et disparaître. Mais enfin,
bon, c'est une question provoque, mais qui ouvre et voilà un
il
débat
va peut-être
plus
falloir
général.
Qu'il se foute des tartes quand même dans la figure pour se réveiller, parce que là, ce match était chiant, était terriblement chiant pour un main event de plus.
Et le pire, c'est que c'était chiant. Alors qu'il y avait Baron Corbin, mais tu te dirais pas, c'est même pas forcément la faute de Baron
Corbin.
Non,
c'est même pas forcément la faute de Baron Corbin. Et puis en plus, moi j'en veux beaucoup, j'en veux plus à Ambrose sur ce coup-là que plutôt dans la soirée avec Apollo Crews et AJ Styles. J'en veux plus à Ambrose parce que là, même scénario, on avait quand même Baron Corbin qui avait une opportunité. D'ailleurs, je sais pas d'où elle vient cette opportunité, mais une opportunité en or.
Suffit de demander à Daniel Bryan.
Oui, suffit de demander à Daniel Bryan. Non, parce que Baron Corbin, il venait de nulle part. Là, il était en train de tabasser le pauvre Kalisto depuis 2-3 semaines là derrière.
Oui, effectivement, t'as raison. Bah, j'imagine ouais. que c'était avorté.
Oui. Et puis là, soudainement, il se retrouve propulsé contre le champion de la WWE en main event de SmackDown. On ne sait pas pourquoi. Donc, c'est quand même une opportunité incroyable. On lui donne un match de 12-13 minutes et un peu comme Apollo Crews, je trouve ça dommage parce que ça, il en aura peut-être pas 36 et j'ai trouvé ça très pauvre et voire mauvais par moment. Mais sur ce match-là, j'en veux presque plus à Ambrose qui finalement n'a, contrairement peut-être à AJ Styles, n'a rien fait non plus pour faire en sorte que Baron Corbin sorte grandi de ce match. Donc c'était vraiment, j'ai trouvé ce main event très mauvais des deux côtés, parce que du coup Baron Corbin était décevant et est passé à côté de sa chance.
Oui. Bah, d'autant plus que la fin du match était pas une victoire clean de Dean Ambrose. Donc il y avait en plus la possibilité de faire briller Baron Corbin vu comment le match était censé se terminer.
C'est ça. Et puis bah donc je suis déçu pour Baron Corbin, et puis je suis déçu parce que Dean Ambrose au final, ce genre de match est pour moi catastrophique pour le public, pour les suiveurs lambda, quand ils voient le champion de la WWE se faire malmener pendant 12-13 minutes dans un match terne sans saveur contre un mec qui ne faisait rien depuis 2 mois, rien, et qui se fait malmener, qui gagne sur des culs, c'est pas bon. Enfin, Dean Ambrose, il ne sort pas du tout comme un champion de ce match, sous prétexte qu'il a cassé les robignoles de AJ Styles sur une corde. Donc j'ai trouvé ça mauvais dans l'écriture, mauvais dans l'exécution. Je suis pas du tout convaincu de cette direction qu'ils prennent là. Enfin, je sais pas si c'est une direction ou si c'est Dean Ambrose qui gâche un peu les segments dans lesquels il apparaît. Mais voilà, j'ai pas été convaincu, et je suis même pas convaincu, je suis été déçu par tout cet enchaînement, où finalement le seul qui sortait pas trop mal, bah, c'était encore AJ Styles, parce qu'il avait été super marrant aux commentaires. AJ Styles, s'il y en a un qui a mis over Baron Corbin, c'est AJ Styles, parce qu'au micro, pendant les commentaires, il a pas arrêté de dire que Baron Corbin, t'es quelqu'un de super dangereux, pour telle raison et tout.
Ah oui.
Bon, par contre, on l'a pas forcément ressenti dans le ring. Ça, après, la faute à qui, bon, je sais pas. Mais voilà. Bon, donc voilà, je suis très 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 perplexe. Moi, quand on me propose des segments comme ça, je me dis que, il faudrait mieux que AJ Styles prenne le titre, parce que là, il est au sommet là de, il est au sommet de ce qu'il peut faire. AJ Styles, il est au top. Il sort de match absolument dingue. Ça y est, il a chopé son personnage de tête à claque ultime. Enfin, moi, j'ai jamais eu autant envie de. Alors, c'est peut-être parce qu'il a battu John Cena et qu'il se balade avec le petit bandeau. Mais moi, j'ai jamais eu
Je
autant
pense que
envie
ça
de claquer
contribue un
quelqu'un.
peu.
J'ai jamais eu autant envie de claquer quelqu'un que lui depuis plusieurs mois. Donc, il
Ah
est
ben il est à
vraiment.
l'aise, hein.
Ah
Vraiment
oui,
là, Just
super à l'aise.
Size.
C'est génial. Donc voilà, c'est lui le top heel. Il est au top du catchesque, au top de son personnage. Ce serait le bon moment de prendre le titre à quelqu'un qui, par contre, est en perte de vitesse claire. Enfin, là, c'est
Et
évident.
toi, je viens juste d'avoir une image, tu disais, voilà, il est en haut de la montagne, Just Size. Bah je pense, voilà, c'est ça. Il va avoir son match avec Backlash. Et si, partons du principe qu'il gagne la ceinture. Bon, si c'est pas là, ce sera peut-être une autre fois. Mais c'est comme si le prétendant, donc le contender, se baissait pour prendre la ceinture
Ah bah
au champion.
c'est vraiment
Tu vois cette image? Tu vas
on est
pas décrocher la ceinture
non, je
en
suis
haut.
d'accord.
C'est une espèce de ladder match à l'envers, quoi.
On
Il
est
faut
dans
aller
un
tout au faut creuser pour aller chercher la ceinture.
on est
C'est
dans un
terrible.
cas on est dans un cas assez rare où en effet le challenger est présenté comme, je trouve moi, beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus fort que le champion. Ouais. Je suis assez d'accord. Donc du coup, pour moi, AJ Styles est clairement favori dans 10 jours à Backlash. Et puis bon, bah, si jamais ça peut aboutir au 16e titre de champion de John Cena quand il reviendra, ça me va bien
Ah là là, encore mieux.
après.
Paco Rabanne, il est là. On enchaîne, donc on va conclure ce numéro avec notre note et le fameux top et flop qui constitue donc le fameux mot de la fin. Donc Giscale, ta note, ton top et ton flop, s'il te plaît.
Bah écoute, pour ma note, ça va être une de mes pires, hein, parce que je vais mettre 2,5. C'est quand même la moyenne. Je vais mettre la moyenne parce que de manière générale, au micro et pour vendre Backlash, c'était plutôt un bon épisode, on va dire. Tout a avancé et les segments micro étaient plutôt bons, voire excellents. Par contre, dans le ring, c'était vraiment d'une pauvreté terrible cette semaine. Et mon top, ça va être la feu de, enfin le segment micro sans surprise, hein, mise Ziggler en ouverture, qui était vraiment excellent. Et mon flop, on l'a passé très vite fait, mais à un moment, je me suis vraiment tapé ma tête contre l'écran quand j'ai vu Gary the Milkman, Milliman, là, je sais pas quoi là.
Bah écoute, moi pour la note, je suis assez mitigé aussi, donc allez, je vais mettre un 2,25.
Ah, pas sous la
Ouais.
moyenne, aïe aïe.
Ouais. C'est vraiment. Là, c'est en discutant, je me rends compte quand même que c'était pas terrible. Il y avait beaucoup, beaucoup de mauvaises choses, dont certaines qui sont des mauvaises choses depuis plusieurs semaines. Et il y a un moment, il faut sanctionner que ça revient, que ce soit la division féminine ou Dean Ambrose qui sortent pas les doigts du cul.
C'est vrai.
Mon top, bah moi c'est Heath Slater, hein. Toute cette séquence formidable,
Il mérite.
j'ai kiffé, il mériterait mes deux tops. Et mon flop, j'ai pas trop envie de tirer sur l'ambulance avec Dean Ambrose, donc je vais parler des vaudevillains. Voilà, mon flop c'est les vaudevillains. C'est le genre de gars que je préférais mettre dans mon top, mais malheureusement je mets dans le
Malheureusement,
flop,
voilà,
quoi.
t'as pas le choix.
Bon, c'est ainsi que se termine ce numéro donc du supplément SmackDown. Et ben, je te remercie, hein, Giscale, d'avoir
Merci,
partagé
comme toujours, c'est
ton
toujours un plaisir.
ressenti sur le show bleu. Dans 10 jours, c'est Backlash, donc le premier pay-per-view entièrement dédié à SmackDown. Entre-temps, on aura donc le fameux Go Home Show
C'est ça.
qui j'espère va un petit
Relever un
peu
peu.
nous relever le niveau un peu partout, parce qu'il y a des trucs très bien, d'autres qui ont besoin vraiment d'un coup de boost. On y croit, on y croit, on y croit à mort, il n'y a pas de raison, c'est SmackDown, hein, merde quoi. Et je vous invite donc à nous suivre toujours hein, sur YouTube, iTunes et PodCloud. Abonnez-vous, partagez, ça c'est important, hein, il faut partager hein, sur vos Twitter si vous kiffez, si vous aimez. Ça vous prend pas beaucoup de temps. Et c'est moins long qu'un squash match de Kane et ça, à terme,
C'est
ça.
beaucoup plus utile.
Encore merci à vous de nous écouter et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous!
Ciao, ciao.
Toujours au bord de ta piscine là?
Presque, ouais, je suis pas très loin, elle est à 10 mètres.